n'était pas tout à fait prêt, vous allez me redire tout ça.
Non, non, ça tourne, ça tourne.
Déjà ?
Quelqu'un part, j'enregistre. C'est pas intéressant, je coupe. Intéressant, coupé. Intéressant, coupé. Clic, clac, clic, clac, pouf.
Et alors, ils ont l'air bien pressés tous les deux. Où ils vont si vite ?
Là-bas, Saint-Jacques.
En pèlerinage ?
So may we start. So may we start. It's time to start. High time to start.
Vous arrivez en retard à tous vos rendez-vous ou seulement ceux qui sont pas importants?
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à l'écoute de Caméra Subjective, le magazine où l'on parle de cinéma au féminin pluriel, car nous sommes trois femmes ce soir, comme souvent, dans ce studio pour animer cette émission. Bonjour Véronique.
Bonjour Margot. Bonjour Anne-Lie.
Bonjour.
Alors, je vous le dis, mais vous le savez, vous pouvez nous retrouver en direct un mercredi sur deux à 19h ou en réécoute sur le site de Radio G à la page de l'émission.
Ce soir, nous vous parlerons d'un cinéma qui voyage, qui vient à votre rencontre, et ce avec le dispositif Balade Images et sa programmation itinérante. Vous saurez tout dans un instant. Nous vous proposerons aussi de plonger dans le montage à travers un livre.
Il est sorti il y a plusieurs décennies déjà, mais reste complètement d'actualité tant les conseils que nous donne son auteur, le fameux Le Grand Walter Murch, aux 4 Oscars, paraissent intemporels. Maintenant, vous connaissez le programme et je laisse le soin à Véronique de nous présenter notre invité qui est la touche masculine ce soir dans le studio.
Eh oui, bienvenue, car avec notre invité ce soir, nous allons parler de cinéma, de projecteurs qui se déplacent de village en village, dans toute la région, dans le département, avec le dispositif Balade Images. Nous sommes avec David Courdier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseiller technique au sein de l'association Famille Rurale qui porte ce dispositif Balade Images. Avant de dialoguer, je vais faire une brève présentation. Qu'est-ce que Balade Images ? On peut parler d'un cinéma itinérant. Il a été initié en Vendée en 1988 et on a rapidement pu le retrouver dans toute la région des Pays de la Loire. Aujourd'hui encore, vous organisez des séances en milieu rural et périurbain où l'on peut voir des films récents et on peut dire que vous proposez une offre culturelle de proximité. Alors, pour rentrer dans ce temps d'échange, je voudrais peut-être d'abord vous parler un petit peu des lieux de ce cinéma itinérant. Donc, on parle de cinéma itinérant. Vous avez des points de projection. Qu'est-ce que cela veut dire ?
Oui, effectivement. Alors, on est, nous, exploitants cinéma, au niveau de la Fédération départementale Famille Rurale du Maine-et-Loire. Et si on a du cinéma à la Fédération, c'est parce que nous, notre rôle, c'est d'accompagner les associations Famille Rurale. Et le rôle des associations familles rurales dans les communes, c'est de répondre aux besoins des habitants, donc de leur apporter des services quand il y a besoin de services, ou de défendre leurs intérêts. Ça peut être des fois des accueils de loisirs, il y en a beaucoup à la Fédération. Ça peut être des cours d'activités de loisirs ou culturels, et puis ça peut être du cinéma. Donc le cinéma, ça fait longtemps que ça existe au niveau de la Fédération. Actuellement, on est sur 23 points cinéma. Alors, pourquoi nous, on appelle ça des points cinéma ? C'est vrai qu'en général, on parle de salles cinéma. Sauf que nous, on est un circuit itinérant avec des points qui sont agréés. Donc, la réglementation au niveau des circuits itinérants est un peu particulière. On n'est pas considéré comme une salle fixe et on n'a pas un agrément de salle fixe. Donc, on ne peut pas vraiment revendiquer des salles à proprement parler, puisque partout où on va, c'est des salles qui ne servent pas qu'au cinéma. En fait, on s'adapte au lieu, à tout type de lieu. Alors, ça peut être des fois des salles avec des conditions, on va dire, assez spartiates et rudimentaires. Une salle communale de loisirs avec des chaises. Et puis, on monte un écran et on s'installe comme ça. Et puis, on a aussi des salles de plus en plus culturelles, avec des gratins, un bel écran, un système de son qui est bien. Mais ces salles, elles n'ont jamais que l'utilité du cinéma, elles servent à beaucoup de choses. Donc, nous, au niveau de l'agrément CNC, c'est,
ce sont CNC, des points c'est cinéma. Le Centre National du Cinéma, pour nos auditeurs.
Donc, en fait, voilà, ce sont des points cinéma et on y va ponctuellement et pas forcément au même rythme, d'ailleurs. Il y a des endroits où on va faire une projection ou deux tous les mois. Et puis, il y a d'autres endroits, comme par exemple à Tiercé, au cinéma Le Pax, donc qui fait du cinéma avec nous, mais aussi qui est un théâtre. Là, on doit être à, en moyenne, 10 à 12 séances par mois. Mmh. Donc, voilà. Et puis, à Mur-Rigné, par exemple, pas très très loin d'Angers, on est à une séance toutes les semaines.
D'accord. Mmh. D'accord. Très concrètement, quelque chose qui m'intrigue, c'est combien y a-t-il de projecteurs? Comment ils circulent? Comment s'organise toute cette petite tambouille logistique pour aller d'un point à l'autre?
Il y a de la logistique, oui.
Ouais.
Alors, on a des fonctionnements différents selon le type de lieu. Donc, là où on a beaucoup de séances, par exemple à Tiercé, c'est un projecteur qui est fixe et c'est la commune qui a acheté un projecteur. Donc là-bas, le projecteur ne bouge pas. Ça permet de faire des séances autant que la salle est disponible et puis que l'association le souhaite. C'est le cas aussi sur Mur-Rigné, où c'est la mairie qui a acheté un projecteur d'occasion, un projecteur numérique. Et donc là, c'est pareil, pas de logistique, de matériel. Donc ça, c'est assez confortable qu'on peut faire ça. Et puis sinon, nous, on a acheté deux projecteurs numériques il y a une dizaine d'années. Et ils circulent alors, de point en point. Et on essaye de faire en sorte, dans la mesure du possible, que ça soit de point le plus proche en point le plus proche.
Est-ce que c'est fragile, des projecteurs
Oui. Alors, on ne savait pas du tout qu'on est passé au numérique. Où est-ce qu'on allait? On connaissait bien le 35 mm. Et finalement, c'est quand même assez robuste. Quand on investit dans le numérique, on se disait, on part peut-être pour 5 ans, quoi. Mais c'était quand même des investissements assez conséquents. Et bien, 10 ans après, alors, ça arrive qu'on ait des pannes, hein. Et quand il y a des pannes sur du numérique, elles sont relativement coûteuses. Mais ils sont quand même toujours là, nos bons vieux projecteurs, et ils font des kilomètres quand même.
Est-ce que vous transportez aussi le matériel son?
Alors, nous, on a créé deux circuits dans le département. On a ces deux salles un peu où les projecteurs sont fixes.
Plus autonomes, oui.
Voilà. Et puis, on a créé, on va dire, un circuit sur tout l'ouest du département, avec quand même la plupart de nos points qui sont dans le Segréen. Et puis, un petit peu dans les Mauges. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, nous, le circuit 1. Mmh. Et puis, on a fait un circuit 2, plutôt sur le Saumurois. Le projecteur tourne autour de Douai, Longuet, etc. Donc, dans le circuit 1, qui est notre circuit, on va dire, principal, il doit y avoir 13 points sur nos 23 points en tout. On a acheté une remorque cinéma, enfin une remorque qu'on appelle remorque cinéma. On met le projecteur dedans, on l'a aménagé, on a le système son dedans, et puis les bénévoles vont chercher, puisqu'en fait, je ne vous l'ai pas dit, mais les séances sont faites par des bénévoles. Et on ne serait rien sans les bénévoles, il n'y aurait pas de séance sans ces bénévoles. Donc, ils vont chercher la remorque de point de projection en point de projection. Alors que dans le circuit 2, là, il n'y a pas de système son, parce qu'il y en a un dans chaque salle, et pas de remorque, et ils vont chercher le projecteur, soit avec un utilitaire ou un break.
Mmh, c'est une sacrée organisation, quand même.
Ouais.
Oui, alors surtout, il faut essayer de s'arranger, pour essayer de pas trop multiplier les kilomètres, de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de distance, et donc d'aller de point le plus proche en point le plus proche. Sauf que tout le monde n'est pas forcément sur le même rythme. Plus il y en a qui vont avoir des jours fixes, il va falloir que ça soit impérativement le mardi, etc. Il y en a d'autres qui vont passer un film enfant, donc ça ne va pas pouvoir être en semaine. Et si on ne veut pas s'étaler sur des délais trop longs, parce qu'on essaye de faire une boucle tous les mois, et puis les salles sont plus ou moins disponibles. Donc on se casse quand même la tête au moment où faire le planning pour l'année. Et là, on est en plein dedans.
Vous êtes las du Tetris?
C'est ça, ouais. c'est exactement ça.
D'accord. Et du coup, vous dites que c'est les bénévoles qui projettent, donc j'imagine que vous prévoyez toute une dynamique de formation. Comment ça se passe?
Oui, je trouve qu'on a de la chance pour le cinéma, parce que souvent on entend parler crise du bénévolat, ou on ne trouve pas de bénévoles, ou on manque de bénévoles. Et il y a bien un ou deux points où des fois on a des difficultés, hein. Je pense à un ou deux points où c'est compliqué de trouver des bénévoles, mais pour le cinéma, on trouve quand même assez facilement, et c'est des gens, en plus, qui restent assez longtemps. Donc on les a formés à l'utilisation du projecteur. C'est pas très compliqué une fois qu'on sait le faire marcher. Ça s'oublie pas. Et puis on a une hotline en fait qui peut les dépanner 7 jours sur 7 et même prendre la main s'ils ont internet. Donc on les forme. Quand on les forme, la projection ça dure à peu près 3-4 sessions sur 3-4 soirs. Et puis voilà, sinon ils sont autonomes, il n'y a pas vraiment besoin de formation sur la billetterie, la publicité, etc. Ils sont très autonomes, ils se débrouillent.
Ouais, ouais. Et donc c'est pas forcément des très grands cinéphiles, c'est ouvert à tout un chacun.
Tout à fait. Tout à fait, oui.
Et du coup, dans ce sens, qu'est-ce que vous programmez? Comment se passe la programmation?
Alors on essaye, nous, d'avoir une... de ne pas tomber ni dans un extrême ni dans un autre, et ça on y tient. C'est-à-dire qu'on s'est toujours dit, c'est pas parce qu'on est en milieu rural, avec un système comme ça qui est un peu très différent d'un multiplex, hein, que pour autant on ne doit pas passer des films très populaires, et que y aurait les films art et essai pour ce public dans ce cadre-là, et puis ça serait mal de passer Spider-Man ou autre. À l'inverse, on n'a pas non plus envie de passer que ces films-là. Alors par contre, on rencontre quand même des difficultés, au niveau de la programmation, si on doit tenir compte quand même qu'on va sur des territoires où il y a peu d'habitants. Même une commune où il y a 2000 habitants, par rapport à Angers, c'est très peu. Ça veut dire que, par exemple, s'il y a, 1% de personnes intéressées par des films un peu différents, les 400 coups, par exemple, ils peuvent le proposer sur le bassin de population, ils vont avoir du monde. Nous, sur même 2000 habitants, mais des fois, il y a des villages où on a 200 ou 300 habitants,
c'est plus fragile, ouais.
Même si on a 1%, on se retrouve avec 2-3 personnes à la séance. Alors, c'est déjà économiquement, ça peut être compliqué si on fait que ça, mais surtout, 2-3 séances, les bénévoles, on peut le comprendre, ils vont vite avoir le moral dans les baskets si ça se produit 2 ou 3 fois de suite. Parce que c'est quand même une ingénierie, il faut aller chercher le matériel, le monter, ça prend du temps. Forcément, ils ont envie qu'il y ait du monde, c'est normal. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de passer quand même des films qui sont les films, on va dire, moteurs. Les grandes comédies françaises, genre moteur qui attire du monde, pour créer un dynamisme, et puis des habitudes, et puis de faire des incisions dans l'année pour passer d'autres types de films et faire d'autres types de propositions. Et en général, quand on les fait, on essaye de les accompagner autour de ciné-débats ou devenus de réalisateurs, ou de jeux, ou de choses comme ça, quoi.
Ouais. Mais du coup, ça veut dire que vous avez accès à tous les films que vous souhaitez quand vous parlez de grosses comédies? Est-ce qu'il y a un délai avant de pouvoir les passer dans vos circuits? Comment ça se passe?
Alors, oui, on a accès à tous les films. Par contre, effectivement, un circuit itinérant, il y a des délais. Ces délais, ils se sont réduits. Et aujourd'hui, on arrive à avoir les films à 4 semaines.
Ah oui.
Et si on fait beaucoup de séances pour un film en particulier, à 3 semaines, on arrive à l'avoir.
Je pense qu'il faut peut-être juste réexpliquer à nos auditeurs.
Oui.
C'est-à-dire qu'en France, il y a des dates de sortie des films. Mmh. Et ça veut dire que vous pouvez les avoir 4 semaines après la date de sortie officielle en
c'est
France.
Ça. Voilà. C'est ça. Et on compte à partir de la première semaine. Donc ça veut dire que une semaine, c'est le mercredi suivant qui suit la sortie. Donc 2 semaines, il n'y a eu que 15 jours, 3 semaines, pardon, il n'y a eu que 15 jours en fait.
D'exploitation auparavant.
C'est ça,
quoi.
Tout à fait.
Donc on commençait un petit peu à parler de cinéma, d'intérêt de spectateurs pour venir au cinéma. Quels sont vos publics en général? Et puis on se demande aussi, on sait que le cinéma a été fortement impacté, le cinéma en salle, par la crise du Covid. Comment ça se passe à Balade Image?
Ça a été difficile, comme pour tout le monde, par rapport au Covid. Alors, nos spectateurs, déjà, on a beaucoup de personnes de plus de 50 ans. Mmh. Et il y a une étude qui a été faite par l'ANSI, l'Association nationale des cinémas itinérants, et ça corroborait en fait les circuits cinéma itinérants en France. On a beaucoup de, à 70% de personnes qui ont plus de 50 ans. C'est compliqué pour nous et pour les circuits cinéma itinérants en général d'avoir le public, on va dire, des 15-30 ans.
Je crois que ce n'est pas que dans le cinéma itinérant.
Oui. Et puis sinon, on a des enfants. Avant, on avait principalement des enfants. Et ce qui faisait tourner chez nous le circuit, c'était les enfants avec les séances...
scolaires, non ?
Pas forcément. Pas spécialement, mais surtout les séances en fait, qu'on faisait le mercredi ou pendant les week-ends, et puis surtout pour les vacances scolaires. Et puis, c'était compliqué au niveau des adultes. Et puis est arrivée la réforme des rythmes scolaires. Et là, ça a changé les habitudes. Pour faire des séances le mercredi, c'était compliqué. Et on a perdu nos enfants qui venaient comme ça. Et par contre, par je sais quel miracle, il s'est produit exactement au même moment l'inverse au niveau des adultes. Et on a explosé au niveau du public adulte. Donc l'un a compensé l'autre.
Et quels sont les principes tarifaires ? Est-ce que c'est un tarif le même dans tous les points ou c'est discuté en local ?
Alors, il y a une billetterie pour chaque circuit. Donc, chaque fois qu'il y a un projecteur, c'est un circuit avec une billetterie. Donc, la billetterie, elle circule avec les projecteurs. Les tarifs sont les mêmes. Alors, on pourrait appliquer des tarifs différents par billetterie. On n'a pas vraiment de raison de le faire. Par contre, on pourrait pas faire des tarifs différents de commune en commune s'ils partagent la même billetterie.
Et alors, c'est quoi les tarifs ?
C'est pas cher.
C'est ce qu'on imagine.
C'est pas cher. C'est toujours trop cher, mais c'est 5,50 pour un tarif
Ça, c'est
adulte.
Intéressant ce que vous venez de dire. C'est toujours trop cher. Je ne sais pas. Bref.
Je suis d'accord, ça peut être discutable. Je pense simplement que en ce moment, on parle beaucoup du pouvoir d'achat et de la difficulté pour les gens qui se privent. En premier lieu, on l'entend dire depuis quelques semaines sur les activités, les loisirs, la culture. Mais c'est vrai que si on compare à certaines autres dépenses, 5,50, c'est pas très très cher. Donc ça, c'est notre tarif pour le public adulte. Adulte chez nous, c'est à partir de 14 ans, ce tarif. Et puis quand on est adhérent à Famille Rurale, c'est 4,50 pour à partir de 14 ans et adulte. C'est le cas aussi pour les étudiants et les demandeurs d'emploi. Pour jusqu'à 14 ans, sinon, c'est 4 euros. Et quand on est adhérent à Famille Rurale, les enfants, c'est 3 euros. Comme pour les scolaires.
D'accord. Et du coup, là, on parle de tarifs, donc d'accès de la culture au public. Quelle est la place, comment considérez-vous la place de votre cinéma itinérant aujourd'hui dans l'animation du territoire ? Qu'est-ce qui vous anime, en fait, dans ces valeurs ?
C'est une très bonne question, parce que c'est... si on fait du cinéma, c'est vraiment pour cette raison-là, pour animer les territoires et apporter la culture. Il y a vraiment, je trouve, une différence, quand même une particularité par rapport au circuit itinérant, c'est la convivialité. On le voit, les gens restent à discuter après la séance. Les bénévoles, des fois, favorisent ça. Ils vont prévoir éventuellement un verre de l'amitié après la séance. Il y en a qui vont prévoir des goûters, que ce soit pour, des fois, les enfants ou les seniors. Donc déjà, ça échange. Et puis, les gens se connaissent forcément sur les petites communes. Donc ça, c'est vraiment important pour nous, la convivialité. Et puis, l'animation... Bon, alors là, on n'a rien inventé, les ciné-débats, etc. Mais nous, ça, on y tient parce que ça contribue à animer des villages où des fois, y a des plus grosses communes qui ont des commerces, mais on va aussi dans des petites communes où des fois, il n'y a plus du tout de commerce, quoi. Et puis, ça joue aussi sur la mobilité. Ce qu'on constate, nous, c'est que notre public, c'est quand même un public qui n'irait pas au cinéma si on leur proposait pas sur place. En ça, on fait pas de concurrence du tout aux salles fixes, à tel point même que des fois, on a deux points qui sont très très rapprochés. Alors on s'est dit, bah, puisque c'est des communes côte à côte, on va essayer de faire une programmation complémentaire et puis de pas passer le même film. Mais les gens ne se déplaçaient pas. Et même quand on a historiquement un point et puis qu'on en ouvre un sur une commune juste à côté, bah, on constate qu'on ne se fait même pas de concurrence à nous-mêmes alors qu'ils sont à 3 ou 4 km d'écart. Donc c'est vraiment un public qui, principalement, hein, qui vient parce que c'est le cinéma qui vient à eux.
C'est un peu recréer les cinémas de quartier d'une certaine manière.
Oui, tout à fait. C'est un peu ça. Bah nous, on est sur des grands quartiers avec une très grande commune à l'échelle du département. Mais oui, c'est un peu ça.
Si on imagine les 5 à 10 prochaines années, quels sont pour vous les grands défis à relever ou quelles sont vos utopies pour que continue de vivre toute cette dynamique?
Il va y avoir l'évolution, l'évolution technique. Ça va être une grande question.
Puisque au-delà du numérique, il y a encore d'autres évolutions à venir importantes.
Eh bien, alors déjà, on va passer avec des projecteurs laser.
Ah oui.
Et ça, c'est pas forcément adapté au circuit itinérant. Et puis, on pourrait se dire que le projecteur, ça soit à la fin et qu'on remplace les projecteurs par des écrans géants LCD. Et ça, nous, on ne le mettra pas dans une... on aura du mal à le mettre dans une remorque.
D'accord.
Pour le moment, on n'en est pas là. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de continuer à se développer et à proposer des choses intéressantes au public.
D'accord. Je crois que c'est un petit peu l'heure de s'arrêter. On tient vraiment à vous remercier pour ce temps d'échange très riche. Merci beaucoup. Et on vous souhaite plein de beaux rendez-vous cinéma à venir dans Balade Images.
Merci beaucoup.
Merci.
Je rappelle, David Courdier, que vous êtes conseiller technique au sein de l'association Famille Rurale. Donc on a parlé ensemble du dispositif Balade Images. Toutes les informations sont en ligne sur le site baladeimages.fr. Alors le site est en cours de mise à jour, donc les informations sur le projet en général sont là et bientôt les dates, les séances y seront également. N'hésitez pas à contacter l'association Balade Images, Famille Rurale pour le coup, si vous avez envie de les rejoindre et faire partie de cette équipe de bénévoles projectionnistes et de découvrir les arcanes de cette programmation itinérante.
Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man. Woo! won't you hurry, 'cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry.
C'était Sugarman de Sixto Rodriguez. Cela vous rappellera peut-être le documentaire sur sa musique et son parcours, réalisé par Malik Benjelloul. Sugarman également, le titre du documentaire. Et là, pour l'heure, vous écoutez Caméra Subjective, le magazine consacré au cinéma sur Radio G. Et on retrouve la chronique de Margot.
Oui, alors je vais partager avec vous un élément un peu personnel. C'est qu'il m'arrive d'intervenir dans des écoles de cinéma. Et la dernière fois que ça s'est présenté, j'ai rencontré un étudiant qui m'a recommandé un livre. Et ça, c'est quand même relativement rare. Et donc, c'est de ce petit livre noir, qui fait figure de quasi-bible pour certains, que j'ai à mon tour choisi ce soir de vous parler. Alors, il s'agit d'un court essai, joliment baptisé « En un clin d'œil » et sous-titré « Passé, présent et futur du montage ». Rien que ça. En tout cas, quand on écoutait... l'invité, on voyait bien qu'il y a des évolutions technologiques en cours dans tous les métiers du cinéma, et donc c'est de celles qui concernent le montage dont va nous parler ce livre. Et donc ce livre est signé par un grand homme de l'ombre du cinéma américain de ces 50 dernières années, Walter Murch. Alors si son nom vous est inconnu, pas de panique, à mon avis il vous sera beaucoup plus familier à la fin de cette chronique. Alors j'ai parlé d'essai au début, mais c'est plutôt la retranscription d'une conférence que Walter Murch a donné à la fin des années 1980 à Ciné, et que depuis il a réactualisé à l'aune des années 2000, qui ont été fondamentales pour l'évolution technologique du montage. Ce livre se présente comme une série de courts chapitres passionnants à parcourir quand on s'intéresse beaucoup, ou alors même plus modestement, au montage, qui est un moment ô combien crucial de la post-production d'un film. Songez qu'on désigne parfois cette étape comme la troisième réécriture d'un film, après celle du scénario et du tournage. Au montage, on réunit et on visionne tout ce qui a été tourné avant de choisir ce qu'on va garder pour raconter l'histoire du film et transmettre au spectateur un certain nombre d'émotions. Alors, l'une des préfaces du livre donne la parole à Francis Ford Coppola, avec qui Walter Murch a de nombreuses fois collaboré. Et ce que je retiens des lignes amicales et plutôt touchantes de Coppola, ce sont deux mots qu'il utilise pour évoquer son fidèle monteur, celui de « pionnier » et de Géo trouve tout. Et la suite du livre lui donne raison. Mais puisque j'évoque Coppola...
You've heard of Colonel Walter E. Kurtz? Your mission is to terminate the colonel's command.
Terminate. Terminate with extreme prejudice.
I love the smell of napalm in the morning.
Very obviously, he has gone insane.
This is the end, my only friend, the end.
Are you an assassin?
I'm a soldier.
Right.
Alors, le son des pales qui tournent de façon presque hypnotique, un mystérieux colonel Kurtz a éliminé la chevauchée des Walkyries qui accompagne le ballet des hélicoptères, la voix de Jim Morrison qui susurre « This is the end ». Bon, nul doute que vous aurez reconnu la bande-annonce de « Apocalypse Now », réalisée par Coppola, Palme d'Or au Festival de Cannes en 1979. Eh bien, Walter Murch a reçu l'Oscar du meilleur mixage son pour ce film, dont il est également l'un des monteurs images. Et cette double casquette, à la fois de monteur images et de sound designer, qui lui a valu plus tard deux nouveaux Oscars pour le film Le Patient Anglais, n'est pas la seule particularité de ce virtuose des platines. Walter Murch révèle aussi qu'il travaille toujours debout devant ses machines de montage, car comme il l'explique,
le montage tient de l'opération chirurgicale. Or, quel chirurgien opère en situation assise ? Le montage s'apparente aussi à la cuisine. Or, personne ne s'assit devant sa gazinière pour préparer le dîner. Mais surtout, le montage est une danse. Le film achevé est une sorte de danse cristallisée. Or, quel danseur fait sa performance assis ?
Opération chirurgicale, cuisine, danse. Vous comprenez tout de suite que l'objectif de Murch dans ce livre n'est pas de nous livrer d'obscurs conseils ennuyeux, mais bien de rendre accessibles et vivantes les réflexions qui accompagnent son travail. Son livre mêle ainsi, dans un style agréable, conseils pratiques, digressions érudites et anecdotes sur les films qui ont fait sa longue carrière. Conversations secrètes, plusieurs opus de la série du Parrain, Apocalypse Now ou Tétro, pour n'en citer que quelques-uns, réalisés par Coppola, mais aussi les premiers films de George Lucas, ou alors Le Patient Anglais et Le Talentueux Monsieur Ripley, qui sont signés par Anthony Minghella.
Et alors, qu'est-ce qu'on apprend dans ce livre ?
Alors, il y a d'abord un certain nombre de conseils généraux qui concernent ce que je vais désigner comme l'esprit du tournage. Quelles sont les grandes idées qui peuvent guider un monteur dans son travail ? Alors, la première qu'énonce Walter Murch, c'est
« Le montage n'est pas tant un assemblage que la découverte d'un chemin ».
Et ça, c'est très intéressant, parce que ce que dit Murch, c'est que face à une scène qu'il doit monter, la première mission du monteur consiste à étudier toutes les possibilités qu'offrent les plans tournés. Donc le montage, c'est pas un jeu de Tetris. D'abord, c'est de se frayer un chemin dans une forêt touffue de scènes potentiellement réalisables. Et Murch démontre dans ce livre qu'il y en a souvent un nombre astronomique de possibilités. Et il raconte qu'il s'est arraché les cheveux lors du montage d'Apocalypse Now, tant Coppola avait multiplié les caméras et les angles de prise de vue pour chaque scène. Ensuite, la deuxième idée qu'il expose, et qui découle de ce premier point, c'est que le montage, c'est avant tout une question de choix, quitte à s'éloigner parfois beaucoup de ce qui était initialement prévu par le scénario. Certaines scènes peuvent être magnifiques quand elles ont été tournées, mais il ne faut pas hésiter à les couper si elles ne servent pas le film au final. Et enfin, Walter Murch s'intéresse à la perception du spectateur, qui doit seul guider le montage du film.
Le travail du monteur consiste d'une part à anticiper et d'autre part à maîtriser l'enchaînement des pensées des spectateurs. Il faut leur donner ce qu'ils veulent et ou ce dont ils ont besoin avant même qu'ils ne le demandent. Le montage doit être à la fois surprenant et évident.
En d'autres termes, quelle information le montage doit-il délivrer au spectateur ? À quel moment du film ? Au moyen de quel plan ? Alors, au-delà de ses réflexions sur les enjeux du montage, Walter Murch n'hésite pas à transmettre aux apprentis monteurs quelques trucs et conseils beaucoup plus concrets mis au point lors de sa carrière. Alors, en voici certains. D'abord, il évoque l'idée d'une équipe de plusieurs monteurs. Ça, je dois dire que c'est relativement américain. Mais il explique comment le Parrain, qui était un film avec énormément de plans tournés et un temps très court de montage, le montage justement n'a pu être effectué que parce qu'il y avait au moins deux équipes et qui ont chacune effectué une partie du film. Donc il y a la première partie par une équipe et puis à un moment il y a une scène où il y a une coupure et puis c'est un autre montage. Et ça fonctionne, je pense que personne ne sait à quel endroit ça s'est séparé. Ensuite il évoque quelque chose aussi qui n'est pas forcément connu, qui est la position du monteur dans une équipe. Parce que le monteur, il n'assiste pas a priori au tournage. Il explique que c'est pas plus mal qu'il reste relativement en retrait pour pouvoir se concentrer dans ce qu'il y a dans le cadre. Être un peu le premier spectateur, le fameux spectateur zéro dont parle Yann Dedé, un autre monteur français, pour pouvoir juger les plans pour ce qu'ils sont et pas pour toute l'histoire qu'il y a derrière liée au tournage. Et enfin, un petit conseil un peu pratique, moi, que je n'avais jamais vu, c'est qu'il suggère pour chaque plan, pour chaque rush auquel a accès le monteur, de tirer un ou plusieurs photogrammes pour réussir à faire le montage, pour réussir à garder un œil un petit peu éveillé, un œil vif quand on visionne les rushs.
Et d'où vient le titre de son livre ?
Alors ça vient d'une théorie plutôt originale qu'expose Mersch au milieu de son livre. Il commence par rappeler que dans la vie, chacun d'entre nous voit et entend en continu, sauf pendant notre sommeil. Il n'y a pas de montage dans nos existences. Pourtant, quand nous regardons un film, notre perception est régulièrement dupée par des coupes entre les plans. On appelle cela justement un raccord. Et ces coupes peuvent correspondre à des changements plus ou moins brutaux d'axes de caméra, de point de vue ou à des ellipses de temps. Par exemple, cette émission de radio qui dure 40 minutes dans ma vie, c'est-à-dire 40 minutes d'images et de sons que mon cerveau enregistre, n'occuperait probablement qu'une ou deux minutes dans un film, sans que cela ne choque le spectateur. Mersch s'intéresse du coup à ce qui fait que ces raccords nous paraissent naturels, alors qu'en fait ils ne correspondent pas du tout à notre expérience quotidienne. Et son hypothèse, c'est que les raccords de montage correspondent à, notre clignement des yeux dans la vie. En fait, il s'inspire déjà d'une remarque qu'avait fait un autre réalisateur qui s'appelle John Huston. Selon Mersch, qui s'appuie sur différentes recherches et études médicales, au-delà de l'aspect purement physiologique, l'être humain cligne des yeux de façon naturelle et spontanée pour organiser ses pensées. Et tout l'art du bon monteur, c'est de déterminer à quel moment précis opérer une coupe dans la scène pour que le raccord corresponde au mieux au clignement que ferait naturellement l'œil d'un spectateur.
Waouh, plein de choses à ouvrir, moi ça me fait réfléchir. Véronique, je vois que ça t'inspire.
Oui, ce qui m'inspire, c'est que du coup, aujourd'hui, on est dans des principes où le montage s'accélère. Enfin, la quantité de plans, elle est phénoménale.
Ouais.
Et donc, on n'arrive pas à cligner autant des yeux.
Ça dépend, on va y penser toute la journée.
Voilà, maintenant, je saurai ce que je dois faire quand je regarde un film.
À partir de ce que dit Mersch, il y a des milliards de possibilités de chemins possibles dans le montage. Ouais. Et on pourrait... faire plein de propositions pour une même scène, en fait. Et c'est à ça que correspond le travail du monteur, plutôt que de chercher quels plans doivent s'enchaîner directement.
Bon, pour creuser le sujet de votre côté, voici les références du livre. En un clin d'œil, passé, présent et futur du montage, de Walter Mersch. Il est traduit par Mathieu Leroux et Marie-Mathilde Burdeau, et il est édité chez Capricci. Connu notre générique, c'est la fin de Caméra Subjective. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On espère que vous avez appris des choses, que vous avez envie de découvrir la programmation de Balade Images, qui étaient nos invités ce soir, et surtout que vous allez lire et vous poser des questions sur le montage. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Ce qui est sûr, c'est que l'émission est disponible en intégralité en podcast sur le site de Radio G, à la page de Caméra Subjective, et on y met toutes les infos, des liens vers ce dont on a parlé ce soir. On se retrouve dans 15 jours, avec une programmation surprise. Donc on vous invite à être là, oui Margot ?
De nombreux chemins sont possibles encore d'ici là.
De nombreux chemins sont possibles, c'est vrai. À dans 15 jours, passez une très bonne soirée, voyez des bons films, amusez-vous. À bientôt.